tous et bienvenue dans l'ère du jeu, votre rendez-vous qui parle de jeux vidéo, de high-tech. J'espère que vous allez bien. Déjà, on va commencer par, je commence par m'excuser pour ce retard, hein, bien entendu. Vous ne nous attendiez plus, vous commenciez à profiter de la musique, mais nous, on est là et on interrompt tout. Donc, désolé du retard, les amis.
C'est tout la faute de Nas. Hein.
C'est toute ma faute. Je prends entièrement. Donc, voilà. Bon, désolé. On va se lancer assez vite, pour le coup, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans l'émission, on a notre ami Arnaud qui est là. Comment vas-tu, Arnaud?
Salut, ça va et toi?
Ça va très bien, un peu dans le speed, mais ça va. Ouais. Et on a notre invité du jour, donc Willy, ça va?
Bonjour à tous, ouais, je dégèle.
Tu dégèles, oui, c'est vrai que le pauvre, il a attendu sous le froid à cause de moi. Mais à coup de
pas. Pas que lui, hein, moi aussi.
Oui, mais toi, c'est pas grave. Oh là là, regarde-moi. Non, mais c'est bon, je rigolais. Écoutez, on va annoncer le sommaire rapidement. Donc, tout simplement, on va déjà dans un premier temps parler avec Willy de ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il fait. Je voulais pas encore annoncer d'ailleurs, mais c'est vrai que tu crées des jeux de rôle. Donc,
oui.
Tu vas pouvoir nous en dire un peu plus dans un instant sur tout ça.
D'accord.
Ensuite, puisque t'es là, on profitera de ton avis pour entrevoir l'avenir du jeu de rôle. Et peut-être expliquer certaines choses. Si vous avez des questions, amis auditeurs, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, vous pouvez réagir sur Twitter via le hashtag RDUJEU, RDUJEU. Voilà. Et si on a le temps, mais ça va être très très short, peut-être qu'Arnaud pourra nous parler d'un jeu sur mobile, a priori.
Ouais.
On verra si on arrive à avoir le temps de se caser ça. Juste avant de se lancer, je rappelle quand même, les amis, que vous pouvez retrouver les podcasts. Tous les podcasts des émissions donc sur la page Facebook de l'association GameAge. L'association GameAge, donc l'association qui réalise l'émission et qui la réalise, qui l'anime, voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur cette page, à les encourager, à nous mettre des likes, etc. etc. Ça nous fera très très plaisir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Arnaud? Je crois pas.
Ouais, hein. GameAge, G-A-M-E-A-G-E.
GameAge, comment t'as dit?
G-A-M-E-A-G-E.
Ouais, c'est vrai.
GameAge. Oui, c'est vrai.
Oui, non, oui, c'est vrai. Très bien, très bien. On a fait une intro un peu rapide. Hein. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur les réseaux sociaux. Nous, on va commencer la petite interview. Allez, c'est parti.
Hadouken!
C'est parti. Donc, Willy.
Hadouken.
C'est ça, je t'ai pris Hadouken dans la face, d'entre Dieu. Non, mais si tu peux rapidement, une petite présentation rapide de qui tu es et ce que tu fais.
D'accord. Bon, alors je m'appelle Willy, donc moi je suis un rôliste de 30 ans presque.
Expérimenté.
Voilà, ouais, donc un rôliste papier sur table.
Voilà, ouais. Sur papier table, oui, très bien.
À la différence des RPG, bon. Mmh. Et puis comme voilà. Tous les rôlistes, tout le rôliste finit par créer son petit jeu. Hein, c'est dans la nature du jeu de rôle sur table, hein, de vouloir faire son univers et ses règles, etc. Mmh. C'est ce que permet le jeu de rôle papier, que permet pas le jeu vidéo en général.
Ouais, ouais.
Donc, faut pas les mêmes compétences. Quoi.
Voilà, il faut pas les mêmes compétences, les mêmes moyens, ça. Bon. Et puis, un peu sur des malentendus, j'ai été édité. Donc, j'ai sorti un premier jeu en 2011 qui s'appelait Dead Sang, qui est un jeu horreur gore. Dans les années 70 aux États-Unis, un truc plutôt trash, hein, on va dire. Voilà.
D'accord.
J'ai amené là pour regarder. Et puis là récemment, j'ai eu plein d'autres collaborations avec d'autres jeux, d'autres éditeurs. Hein, j'ai écrit sur un jeu sur l'univers de Cobra, Space Adventure Cobra.
Voilà. D'accord. Ouais, attends justement, on va revenir sur tout ça dans un instant.
Ouais.
Pour définir les choses, pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas très bien le jeu de rôle, comment on définit le jeu de rôle? Qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle?
Le jeu de rôle, c'est la possibilité d'interpréter un personnage dans un univers fictionnel. Donc, en gros, la définition convient aussi bien aux jeux de rôle vidéo, dans les jeux informatiques, les RPG, que sur le jeu de rôle sur table. Joue un personnage, il y a une trame, un scénario, un univers.
Moi, je dirais qu'à la limite, c'est du théâtre, mais sans la scène. La scène est beaucoup plus imaginaire, en fait.
Voilà.
On n'est pas...
Voilà, parce que c'est vrai que nous, on avait déjà fait une émission où on avait eu du Grandeur Nature, des gens, une association
du gène,
qui était venue nous parler de Grandeur Nature. Donc, ça se rejoint, mais c'est pas tout à fait pareil, c'est ça.
Disons que le rôlis sur table fait un petit peu plus de gras que le rôlis grandeur nature, parce qu'il reste assis. Mais ouais. le
GN, c'est rien plus ni moins que du jeu de rôle, mais là par contre il y a la scène. Voilà. Là tout ton corps et le personnage, tandis que le papier c'est que ton imaginaire, on va dire.
Donc si on fait une mise en scène un petit peu, on est autour d'une table, je vais incarner un personnage, j'aurai une trame, c'est ça?
Ouais.
Et je réagis moi-même, ou il y a des règles, des codes particuliers qui font que je dois réagir d'une manière ou d'une autre?
Ah bah, ça va dépendre un petit peu du jeu. Bah, il faut t'imaginer que si tu as joué à des jeux, à des RPG sur ordinateur, oui. Hein, faut t'imaginer qu'un jour, vous décidiez, faut toujours être plusieurs, hein, qu'il y ait un joueur qui décide de jouer l'ordinateur, en fait.
D'accord.
Et que là, au lieu d'avoir des graphismes chiadés, des PNJ, enfin
c'est les meilleurs graphismes, c'est ça. Voilà. L'imaginaire, voilà. C'est le meilleur graphisme.
On décide que ça va être par la narration, un peu l'art du conte, un peu quelque part, oui. Qu'on va créer l'univers dans lequel évoluent les personnages. Et chacun réagit. C'est un peu comme quand on joue aux cow-boys et aux indiens quand on est petit. Mmh. Hein, et c'est là que va intervenir le système. Quand on est petit, on joue aux cow-boys et aux indiens. Les cow-boys, c'est pan-pan, t'es mort. Voilà, mais à un moment donné... t'es mort combien de temps? Pourquoi c'est moi qui est mort et pas toi? Ouais,
c'est définition des
etc.
règles.
Et c'est là qu'il faut des règles, un système de simulation qui va arbitrer tout ça.
D'accord. Voilà. Alors comment toi est-ce que tu es arrivé dans le jeu de rôle en fait? Qu'est-ce qui t'a comment t'es arrivé là-dessus finalement?
Eh ben, souvent le jeu de rôle, il faut être initié, c'est-à-dire, c'est un loisir qui est un peu difficile à prendre en main. Tant qu'on ne rencontre pas quelqu'un qui va t'y faire jouer, c'est un petit peu la difficulté de ce loisir-là. C'est que souvent, on est invité à une partie, et c'est comme ça qu'on découvre ce que c'est. Parce que quand moi j'ai découvert le jeu de rôle, j'ai acheté des bouquins de jeu de rôle qui à l'époque étaient, dans les années 80, n'étaient pas super didactiques quand même. Hein. Mmh. Et je l'ai lu, ça m'a intéressé, mais j'étais bien infoutu d'y jouer, quoi. Enfin.
Oui, parce que en fait, le jeu de rôle, concrètement, pour y jouer, c'est un livre, c'est ça qu'on achète.
Voilà. Ouais.
Et dedans, donc, il y a une histoire.
Voilà.
Il y a quelqu'un qui va narrer l'histoire, qui va être un peu le maître, c'est ça du jeu.
Dans le livre, tu vas avoir l'univers, l'explication de l'univers pour te centrer un peu. Voilà, si c'est de l'horreur, si c'est du contemporain, si c'est du médiéval fantastique, voilà. Et tu vas surtout avoir les règles de comment on joue au jeu, quoi. En fait.
Voilà.
D'accord.
Et en fait, il y a plusieurs niveaux de règles. La première, les premières règles, c'est justement est-ce qu'il y a quelqu'un qui va jouer le maître de jeu? Donc le maître de jeu, il va avoir un rôle particulier dans la partie. C'est lui qui va décrire l'environnement, il va décrire l'espace, les lieux où sont les personnages, il va décrire les protagonistes, comment ils réagissent, il va les interpréter. C'est-à-dire quand t'es maître de jeu, tu peux avoir trois personnages joués en même temps. Donc tu parles avec ta voix, enfin ta voix devient leur voix, c'est toi qui décides de leurs actions, etc. Et les joueurs, eux, les autres joueurs, interprètent leur personnage. Donc leur action est limitée à ce que peut faire leur personnage. Et le système de règles va devoir arbitrer ce qu'est de la prérogative du MJ, du maître de jeu.
Voilà, d'accord.
Et de ce que sont les possibilités du personnage en fonction de ses compétences, ses points forts, ses désavantages, etc.
Voilà. D'accord.
Donc quand on achète un jeu de rôle, effectivement, on a un bouquin qui précise comme ça quel est le cadre de jeu. Ce que je viens de décrire là, c'est du jeu de rôle classique avec un maître de jeu, etc. Mais après, il y a plein de variantes. Hein. Il y a par exemple des jeux de rôle où il n'y a même pas de maître de jeu.
D'accord.
Hein. En narratif.
Du pur narratif où chaque joueur a sa part de responsabilité dans l'histoire et les règles servent à arbitrer qui prend le dessus à un moment donné, etc.
D'accord. Donc toi tu disais que ça fait 30 ans que tu joues au jeu de rôle,
ouais,
c'est ça?
Enfin à peu près, ouais.
À peu près. Et t'as commencé à en créer au bout de combien de temps de jeu?
J'ai commencé très très vite. Hein. Le jeu de rôle permet ça, c'est-à-dire on peut même imaginer que les règles sont simplement orales, pas besoin de les écrire. Pas
D'accord.
besoin de les rédiger. Quand tu joues avec tes copains, moi j'avais un club en 5e. J'avais un club en 5e dans mon collège. Les règles, ça tenait sur une page et on jouait comme ça. Donc
D'accord.
parce qu'à l'époque, en plus, on ne trouvait pas forcément beaucoup de jeux. Moi, j'étais en province, donc il n'y avait pas de magasin spécialisé, donc on créait tout nous-mêmes. C'est un peu la contrainte qui m'a amené à créer un petit peu
le bidule. Pour trouver les dés déjà aussi.
Voilà,
à l'époque,
rien que pour trouver des dés à l'époque, parce que dans le jeu de rôle, je ne sais pas si vous savez,
il y a des dés 6.
C'est pas que des dés à 6 faces, il y a des dés à 4, 8, 6, 10, 12, 20.
Enfin, d'accord.
Voilà, il y a plein de.
Et le rôle de CD, c'est quoi? Alors au final, il sert à quoi CD?
De définir la part du hasard, en fait.
Voilà.
D'accord.
Du hasard, la part de chance, la part de. Voilà, comme quand tu as beau connaître. T'as beau être très fort, voilà. Je vais prendre un exemple assez basique. T'as beau être un guerrier super fort,
ouais.
Bah t'es jamais à l'abri de rater ta cible.
D'accord. Oui. Voilà. Par exemple, si j'ai un arc, je tire sur un ennemi.
Voilà.
Le dé va définir si j'y arrive.
T'es jamais à l'abri que le mec, je sais pas, il a eu un spasme d'un coup et il s'est décalé et tu l'as raté quoi.
D'accord.
Voilà. C'est la part de hasard en fait.
Voilà. Quand tu joues à un jeu comme Skyrim par exemple, qui est un jeu de rôle là électronique, enfin.
Sur console ordi.
Ouais,
oui.
Sur console. Il y a des règles qui sont écrites et le joueur qui veut vraiment se pencher sur le fonctionnement du système de Skyrim, il peut le connaître. Mmh. Et tel personnage va avoir tel pourcentage de réussir telle action, va causer tant de dégâts selon les armes qu'il a et ses compétences, etc. Et c'est l'ordinateur qui, lui, va gérer l'aléatoirité, en fait.
D'accord.
Hein? Nous, on n'a pas d'ordinateur quand on joue, donc on utilise des dés, concrètement.
Combien de jeux t'as fait, combien de jeux de rôle as-tu fait à peu près?
Alors, quand tu fais, c'est créer ou jouer?
Créer.
Okay.
À créer. Enfin, ouais. Alors moi j'en ai édité deux.
D'accord.
C'est-à-dire deux jeux où j'ai créé le système, j'ai créé, enfin voilà tout. Hein. Mm-hmm. Par contre, j'en ai créé d'autres, mais qui sont restés dans le cercle de mes amis, quoi. Enfin.
Voilà, pour le plaisir, tu les as fait.
Pour le plaisir, voilà. Et puis, j'avais pas la volonté ou il y avait pas l'opportunité. Puis c'est peut-être, il y avait peut-être pas le créneau aussi pour les publier. Donc.
Et ça prend combien de temps pour créer un jeu de rôle que tu édites, tu vois, qui est édité au final? Ça voilà. Tu mets combien de temps, toi, à peu près?
Alors, tu parles pas de l'édition. Tu parles vraiment juste de créer le jeu.
Ouais, voilà, créer ce jeu.
Bah, créer le jeu, c'est-à-dire quand tu dis pas l'édition, c'est-à-dire juste avant qu'ils
sortent. En gros, entre la première, tu te dis où tu commences et où tu te dis bon ben ça y est, c'est viable, on va dire en bêta, c'est viable.
Pour arriver à une bêta, je pense que ça prend un an et demi.
Ouais, d'accord.
Mais pour arriver à quelque chose de fini et qu'on peut imprimer, je pense que ça prend bien 2-3 ans.
Ouais. Dis-moi si je me trompe, mais le plus difficile en fait doit être l'équilibre.
L'équilibre entre
éventuellement les personnages, entre le système.
Ouais. Alors, ça dépend un peu.
L'équilibre dans le sens que ce soit pas trop dur pour les joueurs, mais pas non plus trop facile, que trouver le juste milieu en fait, tu vois.
Ouais. Après, ça c'est le playtest. Ouais.
Voilà. Quand on est en bêta justement, c'est de faire tester à des panels de joueurs pour avoir des retours et se dire pour savoir si c'est trop dur, c'est trop facile.
Ton système est trop. Enfin, ça dépend un peu. Ça dépend aussi de la volonté du jeu. Il y a des jeux par exemple qui vont simuler des situations de combat, des jeux peut-être un peu plus orientés comme ça, opposition, conflit, etc. Mmh. Là, faut, comme dans un jeu vidéo, j'imagine, il faut doser effectivement l'adversité, que le système soit équilibré, quoi, effectivement. Mmh. Après, il y a des jeux où le propos n'est pas le conflit et la résolution de combat.
D'accord.
Il y a des jeux où simplement ça va baser sur de l'enquête, et là, tu vas être moins dans... tu vas peut-être être moins dans la création d'un système hyper optimisé, que dans la création d'un environnement, un background qui va être porteur.
Et voilà. Pour revenir justement sur les jeux de rôle que toi tu as fait, c'est des jeux de quel type? Alors c'est des enquêtes, c'est plus des combats. On situe dans quoi dans tes jeux de rôle?
Alors moi donc j'ai créé deux jeux, c'est Dead Sand et Punch Unit.
Mmh.
Alors moi j'ai un peu une démarche un peu spécial, hein, chaque auteur. Alors, il y a des auteurs qui, par exemple, vont partir sur des... Enfin, quand je dis un auteur, en général, c'est des équipes d'auteurs.
D'accord.
Par exemple, les jeux que j'ai créés, je suis l'auteur un peu principal, mais je ne suis pas le seul non plus.
D'accord.
Il y a des gens donc, qui vont partir sur des environnements, des univers, et qui vont développer des backgrounds et des systèmes un peu pour exploiter ce type de background. Par exemple, on peut se dire... il y a des auteurs de jeux de rôle, enfin il y a des éditeurs de jeux de rôle qui vont acheter des licences.
Ouais.
C'est par exemple quand moi j'ai travaillé sur Cobra où j'étais scénariste.
Ouais, donc le dessin animé Cobra.
Le dessin animé Cobra, voilà, l'éditeur négocie la licence avec des Japonais, hein, ce qui est pas simple hein, d'ailleurs.
Ouais. Oui, j'imagine. Ouais.
Et puis derrière, il va essayer de transférer ça dans un jeu de rôle où les joueurs pourront avoir une expérience en jouant qui se rapproche de ce qu'ils ont connu quand ils regardaient la série Cobra.
Ça, ça doit pas être évident, oui. À mettre en place, ça veut dire qu'il faut connaître parfaitement l'univers pour réussir à retranscrire ce genre de choses.
Mais il faut connaître parfaitement l'univers et puis il faut comprendre un peu ce qui fait la spécificité de cet univers et comment ça peut se transférer en situation de jeu.
Et c'est là-dessus que toi t'as travaillé, donc c'est sur ce genre de truc ou...
Voilà, alors moi Cobra là-dessus j'étais scénariste, c'est-à-dire qu'après j'ai proposé des scénarios pour ce jeu, mais j'ai pas créé le système, je me suis pas occupé du background.
Oui, d'accord.
Évidemment, j'ai lu les mangas et j'ai regardé les animés pour pouvoir le faire, mais je suis pas un spécialiste de l'univers de Cobra.
Donc celui que t'as fait sur Cobra, il s'appelle comment?
Le
jeu de rôle que t'as fait sur Cobra, il s'appelle comment?
Alors moi, j'ai pas fait de jeu de rôle sur Cobra, j'ai travaillé sur un jeu de rôle Cobra, il s'appelle Space Adventure Cobra.
Ah, tout simplement, oui, non, mais c'est pour les fans, t'es ceux qui se disent, ah quoi, il y a un jeu de rôle Cobra et tout, donc c'est pour qu'ils puissent te resituer, d'accord.
Ah bah d'ailleurs, il y a une actualité, parce que là, on a sorti un supplément qui s'appelle Rugball, avec toute une campagne pour jouer dans l'univers
du Rugball.
Qui est un peu la quintessence de Cobra.
Oui, voilà, c'est un jeu de sport dans le manga qui est assez hardcore, assez violent, ouais.
Voilà, du baseball violent, hein, on a du mal à s'imaginer, mais c'est possible. Voilà. Alors moi, les jeux sur lesquels j'ai travaillé...
Un jeu avec des battes.
Ouais. Mais enfin, il y a une telle distance entre les personnages, a priori, qu'on peut. Mais en fait, si, c'est très saignant.
C'est ça.
Oui. Alors, moi, les jeux sur lesquels j'ai travaillé, j'étais pas tellement dans cette optique de développer des univers.
D'accord.
Moi, je cherche plutôt à me dire, je veux faire un jeu qui permette de jouer tel type de scénario.
D'accord.
Mais par exemple, Dead 100, donc le premier jeu que j'ai fait en 2011, là c'est un jeu horreur gore, du survival horror, la survie, on court dans les bois, il y a un cinglé qui vous court après avec une tronçonneuse, etc. Et je voulais créer un système qui permette vraiment de stresser le joueur, que le joueur il sente que ses chances diminuent, qu'il faut qu'il soit inventif et que le monde est méchant.
De faire monter l'angoisse de côté immersif quoi, pour le joueur.
Donc c'est seulement dans un deuxième temps que j'ai calqué un univers dessus, donc et que j'ai décidé d'ancrer ça dans les années 70, dans la Sun Belt, vous voyez, le Texas, Arizona, etc.
Ouais.
Et en créant un peu un mini univers autour des espèces de rednecks et toutes sortes de psychopathes qui hantent cette région-là, voilà.
T'as dû faire des recherches d'ailleurs pour ça ou pas la peine?
On a fait des recherches. Hein, moi j'étais.
Oui, enfin ton équipe quand je dis toi, voilà, oui c'est ton équipe.
Ouais, parce qu'on a mis des fiches de personnages de vrais serial killers ayant existé à l'époque.
Ah, c'est...
Ce qu'ils ont fait un jeu de très bon goût.
Non, mais du coup, ouais, pour les gens qui veulent en savoir un peu plus, du coup ils peuvent apprendre des choses tout en jouant en fait.
Voilà, tout à fait.
Via ça.
Ah bah, c'est un des énormes avantages du jeu de rôle, c'est que même moi je pense sur le plan pédagogique et éducatif.
Hein.
Et c'est peut-être pour ça aussi que justement dans mon collège on avait un club jeu de rôle avec une documentaliste de CDI qui achetait des jeux pour moi.
Waouh, ça c'est la classe.
C'est une précurseur.
Ouais, c'est clair.
Je ne connais pas de gens qui jouent au jeu de rôle et qui à un moment donné se disent pas. Tiens, cette époque-là, ce détail-là, je vais aller creuser, quoi. Et c'est vraiment une passerelle vers la curiosité. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ouais.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie ou tu aimerais en vivre de ça?
Non, j'ai pas envie, j'en envie pas. Moi, j'ai un vrai métier. y a des gens qui en vivent en France, du jeu de rôle, mais enfin, ils se comptent quand même sur les doigts d'une main.
Ouais, c'est difficile de pouvoir.
C'est quand même un marché de niche.
Malheureusement, ça souffre encore d'une mauvaise image d'il y a quelques dizaines d'années.
Ouais. Dans les années 80.
Les MMO n'ont pas aidé en plus pour les JDR, les jeux de rôle. Mais
donc ça reste.
C'est encore très niché.
Il y a peu de gens qui y jouent au final, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent.
Plus que ce que pensent d'ailleurs.
Voilà. Alors le problème du jeu de rôle, c'est que c'est un jeu qui se tient à 99% dans ta tête, dans ton imagination. Le support physique, là, le petit bouquin là, à la limite tu peux t'en passer. Moi je connais des gens, ils viennent, ils ont oublié leur livre de règles, c'est pas grave. Et même à la limite, tu peux faire une partie de jeu de rôle, t'as oublié les dés, c'est pas grave, tu le feras au Shifumi ou je sais pas. Là, j'exagère, je passe à l'extrême, mais dans l'absolu, il y a des joueurs de jeux de rôle qui jouent toujours avec leur jeu qu'ils ont acheté il y a 25 ans et qui sont très contents avec ça. Et du coup, voilà, c'est, il n'y a pas un modèle économique qui serait le même que le jeu vidéo où il faut acheter des nouveaux supports.
On va en garder un peu sur le coude. Là, on commence à arriver sur la deuxième partie. Je vais te poser encore deux petites questions. Après, on va se faire une coupure musicale juste pour savoir, toi. Alors, on a parlé de jeux de rôle papier. Quelle est ta vision des jeux de rôle jeux vidéo qui sont peut-être limite plus médiatisés aujourd'hui que les jeux de rôle papier?
Bah, moi, je pratique assez peu, hein, donc j'ai pas non plus un recul. Moi, ce que je disais tout à l'heure dans la voiture, pendant qu'on cherchait péniblement une place de parking, c'est que j'ai joué à Skyrim, par exemple. Je trouve ça génial, quoi. Voilà. Après, ça n'est pas du tout la même expérience.
Oui, mais ça s'oppose pas pour toi, le jeu vidéo et le jeu de rôle papier, c'est compatible, quoi.
Le jeu de rôle en jeu vidéo, c'est ni plus ni moins que l'enfant du jeu de rôle papier, quoi.
Oui, mais tu sais, des fois il y a des puristes qui vont dire non, mais attendez, le vrai jeu de rôle, c'est sur papier peut-être, tu vois, je sais pas. Hein.
Quel est le vrai ou quel est le faux, entre guillemets. Juste qu'il y en a un qui est le descendant de l'autre.
Non, d'accord, ok. Donc ça s'oppose pas, on peut jouer à des jeux de rôle et aimer les jeux de rôle console, quoi.
Ah oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, souvent les gamers font les deux.
MMORPG, donc tu nous dis.
Les jeux de plateau.
Et les MMORPG aussi, ça te dérange pas, t'aimes bien aussi globalement.
Voilà, ouais, j'en ai fait. Après, le seul moment où ça s'oppose, c'est que le jeu de rôle, ça demande quand même un petit peu d'investissement en temps.
D'accord.
Quand t'es maître de jeu, par exemple, quand tu dois préparer un scénario, que tu dois préparer un peu ce qui va se passer dans la partie, ça demande du temps. Et si t'es accro à un MMORPG, c'est difficile de voilà. Mais c'est valable pour un peu tout. Hein. À un moment donné, le jeu de rôle papier, par exemple, on a beaucoup souffert du développement de Magic. Hein, tout d'un coup, plein de rôlistes sont devenus des accros de Magic.
Donc le jeu de cartes Magic Assembly.
Gathering.
Gathering, merci.
Ouais. Magic l'Assemblée.
Et justement, alors, juste pour resituer, donc, en fait, on a un livre. Idéalement, donc, c'est pour nos auditeurs qui voudraient y jouer. Donc le maître de jeu, en fait, a intérêt à lire en amont. Pour connaître tout ce qui se passe dedans et pour pouvoir mieux interagir et mieux mettre en place les choses, c'est ça?
Il doit connaître les règles, parce que chaque jeu et l'expérience de jeu va dépendre quand même des règles du jeu. C'est-à-dire, par exemple, là, je parlais de Dead Sand, faire une partie de Dead Sand, ça va pas du tout être la même chose que faire une partie de Donjons et Dragons.
D'accord.
Donc le maître de jeu, il doit connaître les règles. Derrière, il doit connaître... Il va pouvoir s'inspirer du background qui est proposé par le jeu, c'est-à-dire tout l'univers, les secrets de l'univers, etc. Et puis, il doit quand même avoir une trame scénaristique pour alimenter ce qui proposer des enjeux pendant la partie. Hein, des intrigues, des mystères, des ennemis, tout ça, voilà. Donc, effectivement, le maître de jeu a quand même plus de boulot concrètement que le joueur, quoi.
Ça doit être plaisant quand même de pouvoir embarquer les gens, où c'est quand même vraiment contraignant et on s'y retrouve.
Je connais personne qui a été obligé de le faire, non.
Voilà,
donc
ouais,
c'est que le maître de jeu prend son pied.
T'es le kiff, ça?
Ouais, mais j'en fais aussi.
Ah, t'es maître de jeu aussi?
Oui,
d'accord.
Oui, maître de jeu.
Et toi, vous passez un nombre d'heures, tu sais à peu près le nombre d'heures que tu passes à jouer à des jeux de rôle, à peu près en moyenne, si c'est beaucoup, pas beaucoup?
Hebdo?
Ouais, les hebdo, on va dire. Pour toi, Arnaud.
Ouais, déjà au moins le samedi.
On
fait partie du même club, en fait.
Ouais, on fait partie du club Crazy Orc, Lyon 8e, 13 avenue.
Antoine Lumière.
Antoine Lumière.
Ouais, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire, hein, pour tous ceux qui seraient intéressés.
Moi, je joue deux fois par mois des parties de 5 heures.
D'accord, oui, donc ça va encore. C'est pas non plus.
Mais moi, je suis hyper chronophage. Un petit joueur, en fait.
D'accord. C'est un petit joueur. Et toi, Arnaud, à peu près, dis-nous.
Alors. Moi, dans le pire des cas, je vais jouer à peu près une fois par semaine.
Ouais, à peu près combien de temps?
Ouais, pareil, ça va être de la partie entre 4 et 6 heures.
Ouais.
C'est une après-midi, quoi. C'est, voilà. Et après, vraiment, ça c'est pour le samedi. Après, pour le dimanche, ça va dépendre. Le dimanche, moi, c'est le jour où je masterise, justement. Où je suis MJ, donc sur une campagne Nullbuck. Et là, en général, c'est des parties beaucoup plus longues, parce que moi, le principe que j'ai mis en place, c'est que c'est pas moi qui fais le jeu, c'est mes joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, je leur donne un cadre,
ouais.
Et c'est un monde ouvert. après ils font ce qu'ils veulent.
D'accord.
Donc il y a une histoire, il faut qu'ils ont un but, mais c'est eux qui décident s'ils essaient de suivre la quête principale, on va dire, ou s'ils se dispersent un peu, voilà. Donc c'est moi qui m'adapte
en fait, tu t'adaptes à mes joueurs. D'accord.
Voilà, c'est mes joueurs, c'est pas mes joueurs qui s'adaptent à mon scénario, c'est moi qui m'adapte à ce que eux ils font.
D'accord.
Et là en général c'est des parties qui peuvent durer entre 6 et 10 heures.
D'accord. Ouais, bon, en gros, tu te prévois une bonne journée pour jouer.
Mais en général, c'est un dimanche sur deux dans le meilleur des cas, quoi.
D'accord. Très bien.
Après des vies de famille, quoi.
Après, c'est pareil, quand j'étais étudiant, je pouvais jouer, faire trois parties par week-end. Hein.
Voilà, ça dépend de ton cas. Hein. Moi, célibataire, tous les week-ends, je faisais non-stop, quoi. Voilà.
D'accord, très bien. Bon, on va se faire une coupure musicale rapidos pour pouvoir enchaîner sur la deuxième partie. Ce sera peut-être la seule hein, dans ce cas. Désolé Arnaud. Donc c'est l'heure du jeu. On est ensemble de 12h à 13h. Vous pouvez réagir sur Twitter via le hashtag Heure du jeu. Vous pouvez aller sur la page Facebook de GameAge, l'association GameAge. Je crois aussi que tu as une page d'ailleurs Facebook sur un de tes jeux. Il me semble, Willy, je l'ai vu.
Sur Punch Unit, il y a une page Facebook.
Sur Punch Unit, voilà. Donc n'hésitez pas à y aller.
Aussi.
Et sur le blog. Ah, on redonnera tout ça, mais voilà, il y a matière à si vous voulez vous occuper ce week-end. Allez, là, on va se passer la musique, donc To All of You de Sid Matter. C'est une musique qu'on peut entendre dans le jeu Life is Strange. Voilà, donc restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite.
Là, ils sont mes croissants.
In a world without you, American girls, I'd like to be part of the world around you, driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like dollies, with shiny smiles and plastic bodies. I wish I had.
retour dans l'ère du jeu, votre rendez-vous qui parle de jeux, de high-tech, de jeux vidéo et de jeux, aujourd'hui de jeux de rôle. J'espère que vous allez bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez réagir et retrouver les podcasts sur le Facebook de l'association GameAge. Donc, c'est simple, hein, vous allez sur Facebook, vous tapez GameAge. Age, oui, j'ai dit Age, mais c'est Age, en fait, pour dire à la Frenchie. Et vous pouvez aller sur le Twitter, donc hashtag R du jeu. On vous retrouvera aussi, d'ailleurs, tous les liens de Willy, hein, donc à savoir son blog, sa page blog, vous retrouverez ça là-dessus. Et aussi bah, sa page pour son jeu, qui est Punch Unit. Punch Unit, voilà. Bon, deuxième partie de l'émission, donc on avait commencé avec une interview de Wooly, donc si vous l'avez loupé, eh ben vous pouvez vous le retrouverez sur le podcast. Voilà, tant pis pour vous, voilà, il fallait être là avant. Là, on va attaquer la deuxième partie, donc avec Wooly. Donc Wooly, je le rappelle, hein, ami auditeur, donc un créateur de jeux de rôle et un. D'ailleurs, on dit quoi? On dit un rôliste, c'est oui. Ça, ceux qui jouent aux jeux de rôle?
Ouais, un rôliste.
Voilà, un rôliste. C'est vrai qu'en plus dans la radio, je sais qu'il y en a qui jouent à des jeux de rôle. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que Fab de la Causerie aime bien aussi les jeux de rôle. Donc voilà, c'est. Je pense que ça va plaire à pas mal de gens cette petite émission là-dessus. Donc là, on va se faire une deuxième partie où on va aborder. L'avenir du jeu de rôle. Parce qu'aujourd'hui, si on fait un état des lieux, vous me disiez tout à l'heure que ça reste quand même quelque chose un peu de niche, alors que pourtant, sur le papier, il y a tout pour plaire. Non déjà, quelles sont les contraintes ou qu'est-ce qui peut limiter l'intérêt des jeux de rôle, d'après vous?
Alors, Arnaud. Moi, peut-être pour préciser ce que disait Willy, c'est que ça reste de niche dans le sens professionnel.
Ah, d'accord.
Ouais.
D'accord.
J'ai mal compris.
Voilà. Ouais. C'est dans le sens, ça reste de niche dans le sens professionnel, dans le sens. Où on voudrait le prendre dans le terme business.
D'accord, donc pour
un
vivre,
business,
c'est
ça,
pas le
ça reste, voilà, ça reste de niche.
Un jeu de rôle qui est vraiment un blockbuster français de jeu de rôle, c'est quelque chose qui va se vendre peut-être à, allez, soyons fous, 7000 à 10 000 exemplaires.
D'accord, ouais, donc effectivement, pour en vivre derrière, ça reste compliqué alors.
Voilà.
Où donc, il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup.
Je pense qu'il y a 3-4.
Des maisons d'édition.
Il y a 3-4 éditeurs qui arrivent à en vivre. Pleinement, voilà. Mais leurs auteurs ne sont pas forcément des auteurs à plein temps.
C'est des passionnés à la base.
D'accord.
L'avantage justement que ce soit niche au niveau professionnel, c'est que ça reste pour la plupart des passionnés. Ils le font pas pour le business, ils le font vraiment pour la passion.
Ouais. D'accord.
C'est l'avantage quoi, à la limite.
Ils sont pas corrompus. Ça c'est. Ça
c'est pas du côté obscur de l'argent.
Et du côté à leurs joueurs finalement, est-ce qu'il y a parce que les jeux de rôle au final. Je pense que les gens ils le situent, mais je sais pas s'il y en a tant que ça qui jouent ou pas. Est-ce que c'est quelque chose de, c'est pas mainstream on va dire, voilà pour parler classe, c'est pas le truc que Monsieur Tout le Monde joue, si.
Effectivement, c'est pas mainstream, mais c'est plus important que ce qu'on croit.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est pas, enfin, le truc c'est que comme il y a pas de support, enfin qu'il y a peu de support, c'est-à-dire, c'est jamais que des bouquins pour le commerce. C'est pas forcément hyper visible. Et les parties se font quand même souvent un peu dans l'intimité. Mais enfin, vous avez qu'à aller voir à la convention Octogone à Lyon, par exemple, là, qui se tient.
Tous les premiers week-ends d'octobre.
Tous les premiers week-ends d'octobre, la partie jeu de rôle, elle est quand même bien, bien dense, il y a du monde. Nous, ce qu'on constate, c'est que, enfin, c'est qu'il y a de plus en plus. C'est qu'il y a quand même un public qui dormait un peu. Tout à l'heure, Arnaud disait il y a une mauvaise image. En fait, il y a eu un incident un peu dans les années 90. Il y a eu une espèce de, il y a eu quelques événements, notamment il y a eu la profanation du cimetière de Carpentras. Je ne sais pas si les gens se souviennent.
Ouais, c'était dû à ça?
Non,
ouais.
Ça n'avait rien à voir, mais il se trouvait que.
Mais ça a été mis sur le dos.
Il y a eu des liens de fait parce que c'était des gens qui, par ailleurs, pouvaient aussi jouer du jeu de rôle. Il y a eu aussi quelques associations américaines très religieuses, on va dire, hein, qui s'inquiétaient des faits sectaires et faisaient le lien entre la magie dans Donjons et Dragons, la sorcellerie, et faisaient des parallèles avec la religion, la Bible, etc. Enfin, il y a eu tout un espèce de courant conservateur, on va dire, qui s'est quand même pas mal attaqué au jeu de rôle parce que c'était une activité un petit peu confidentielle justement ou peut-être qui échappait aussi à un modèle économique qui était difficile à cerner de l'extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez tenter de venir à un club jeu de rôle voir comment ça se passe.
Ouais.
Tant qu'on joue pas, c'est difficile de se rendre compte de ce qui se passe vraiment à la tête des gens qui jouent en fait.
D'accord.
Voilà. Ça donne peu à voir, quoi, le jeu de rôle papier.
Oui, au final, c'est ce que tu disais. C'est un peu comme du théâtre, mais sauf qu'on n'est pas sur scène. Donc, j'imagine que les gars, ils sont assis autour d'une table.
Voilà.
Ils
sont un peu plein de trucs à boire.
Ouais, avec plein de bouffe, tout ce que tu veux. Voilà. Et ils jouent un rôle. Donc, c'est vrai que vu de l'extérieur, on peut se demander qu'est-ce qui se passe et où ils en sont. Ouais, je comprends.
Parce que la scène, elle est dans leur imaginaire collectif, quoi, en fait. Hein. Il y a un truc qui se passe dans le jeu de rôle qui fait que chacun a sa scène de théâtre dans sa tête et qui va être un espèce de compromis entre la scène de chacun, quoi. Et ça, c'est un peu miraculeux, quoi. Enfin, c'est ce qui se passe dans le conte aussi, tout ça. Enfin, voilà. Et il y a eu ces événements-là. Donc, il y a eu Mireille Dumas à une époque qui nous a quand même bien cassé les pieds dans les années 90. Ouais. Ça fait qu'il y a eu un recul des éditeurs et puis des surfaces de vente, etc. Mmh. Et que le jeu de rôle s'est un peu mis en sommeil. Et là, on assiste quand même depuis un ou deux ans à une renaissance. Enfin, les gens retrouvent le mérite du jeu de rôle en termes de sociabilité aussi, ce qu'on trouve pas dans le jeu vidéo quand même.
Ouais.
De convivialité. Enfin, qu'on trouve moins, on va dire, dans
c'est
un
moins jeu physique, oui.
Voilà, voilà. Et puis il y a eu des expériences qui récentes là qui montrent qu'il y a du monde qui s'intéresse à la question. Vous allez aller voir sur la chaîne YouTube. Il y a un youtubeur qui s'appelle Joueur du Grenier qui a lancé une expérience qui s'appelle Aventure. C'est des parties de jeux de rôle réelles sur table qui se font par contre à travers Skype parce que c'est plus facile en termes de mise en scène, on va dire. Avec donc une partie, il y a un épisode toutes les semaines, ça, il y a des centaines de milliers de gens qui suivent ça.
Ah oui, d'accord, donc voilà. Ça fonctionne.
Et d'ailleurs depuis très peu là, depuis quelques jours, ils ont sorti une nouvelle aventure sur le thème Star Wars.
Ouais, je regarderai ça. Ouais, je savais qu'il aimait bien le jeu de rôle, mais j'avais pas compris le concept en fait de ce qu'il faisait Joueur du Grenier.
Moi, pour dire sociétalement parlant, le jeu de rôle, il y en a partout. Pour moi, c'est partout. Il y a de plus en plus de ressources humaines qui utilisent des systèmes de compétences, les systèmes de mise en situation, de mise en scène. Ben ça, c'est ni plus ni moins que du jeu de rôle. Ouais. Je veux dire, moi, je pars dans le principe aussi. Que le jeu de rôle, c'est notre société en fait. Je veux dire, là, t'es en train de jouer un rôle, Nas. T'es en train de jouer un rôle. T'es derrière, t'es à la régie. Tu fais, voilà, tu fais les micros et tout. Ton rôle, t'as des compétences parce que tu sais bouger les boutons qu'il faut et tout. Alors que nous, on le sait pas. Voilà, t'as des compétences qu'on n'a pas. Donc tu sais plus. Voilà, on a tous, on joue tous un rôle. On a tous nos spécialités, nos compétences, etc. Quoi.
Ouais, mais le jeu de rôle, ça reste quand même totalement fictif. Alors que moi, mes compétences, elles sont concrètes, elles sont réelles.
Oui.
Oui, mais après c'est justement de t'imaginer autre chose. Quand t'as regardé un dessin animé quand t'es gamin, un Dragon Ball, tu t'es jamais dit ah j'aimerais trop être. T'as jamais essayé de faire le Kamehameha?
Non.
Ouais.
Quand on parle, pas
voilà.
Du tout.
Voilà.
Laissez-moi tranquille.
ça c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis compétences fictives, compétences réelles quand on crée un jeu. C'est aussi des questions qu'on se pose parce que tu peux ton personnage peut être un. Alors l'exemple de Star Wars, un contrebandier, etc., qui est un as du pistolet blaster, par exemple, etc. C'est une compétence fictive, mais le joueur, il a des compétences réelles qu'il met en scène, de négociation avec ses camarades, stratégie, de planification, de raisonnement logique, de tactique. Déduction. Tout ça, c'est aussi des compétences réelles. Et c'est vrai que le jeu de rôle a été aussi happé par le champ de la psychologie. Hors sujet, je suis psychologue, moi, dans la vraie vie.
D'accord.
On le retrouve en thérapie. Il y a du jeu de rôle thérapeutique qui existe. Donc, on revit des situations traumatiques, etc. Ça peut être... voilà. Et effectivement, tout ce qui est management, ressources humaines, formation continue, développement personnel, mise en situation des cadres, etc. Enfin, tout ce champ-là utilise maintenant le jeu de rôle. Concrètement comme un outil
pour voir l'évolution en fait des employés
donc il y a vraiment
compétences.
Alors bon, il nous reste plus beaucoup de temps, mais juste pour parler un peu de l'avenir du jeu de rôle, pour vous le voyez comment? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va se développer déjà dans un premier temps, qui va continuer à monter, ou est-ce que c'est quelque chose qui a atteint sa maturité, qui ira pas plus haut, voilà, ou est-ce que vous pensez que ça qu'on va réintroduire des trucs je sais pas high tech dedans ou des choses comme ça?
Comment moi, je pense que c'est, tout va dépendre de,
Arnaud.
De l'image que ça va gagner, en fait.
De l'image que ça va gagner.
Ouais, dans le sens où, pour l'instant, on commence enfin à se débarrasser un peu de la mauvaise image, justement parce qu'il commence à l'intégrer dans pas mal de choses plus concrètes pour tout le monde, quoi, pour monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde. Après, non, c'est loin d'être arrivé à sa maturité. D'accord. Surtout, voilà, au niveau société.
Sur un plan, enfin, moi, je pense fait que ma génération, et puis la génération des gens qui ont commencé le jeu de rôle comme ça, et qui ont été frustrés après, justement, de cette traversée du désert des années 90, etc., c'est qu'on arrive en des trentenaires, des cadras, qui commencent à arriver aux manettes de la société, du coup, ils sortent du placard. Du coup, on voit plein de gens qui font, genre Vin Diesel, vous voyez. Vin Diesel qui a publié une partie de jeu de rôle de Donjons et Dragons sur Internet. Vous irez la voir, c'est assez incroyable.
Vin Diesel, d'accord, très bien.
Ouais, mais il y a beaucoup plus de rôlistes que ce qu'on pense.
Que ce qu'on pense, ouais. Et récemment, il y a eu des crowdfunding. Parce que l'avenir du jeu de rôle.
Alors, juste pour préciser, crowdfunding, les financements participatifs.
Les gens, ils payent pour soutenir un projet.
Vous aider,
pour certains jeux qui ont quand même amassé des sommes assez faramineuses. Donc, il y a des éditeurs qui arrivent à gérer, enfin, économiquement, qui sortent des gros produits mainstream dans le jeu de rôle, qui commencent à. Voilà, c'est possible.
Donc, on peut imaginer.
Comme l'appel de Cthulhu.
Oui, l'appel de Cthulhu.
Qui sont vraiment des blockbusters dans le jeu de rôle. Et là, qui fédèrent quand même des grosses, grosses communautés. Et puis après, le jeu de rôle, quand. Moi, je pense qu'il n'a jamais été aussi actif qu'aujourd'hui, parce que maintenant, il y a des moyens de création et de publication qui permettent à tous ces joueurs qui ont toujours créé leur jeu comme ça dans leur coin, s'ils s'en donnent la peine et s'ils arrivent à créer un collectif, quoi, parce que ça ne se fait pas tout seul, de pouvoir sortir des choses où on se rapproche quand même vraiment du professionnel.
D'accord.
Et il y a plein de jeux qui sortent, et par exemple le jeu Punch Unit que j'ai sorti là, qui est un jeu sur le mercenariat plutôt, assez contemporain, assez sale, enfin voilà, on le sort en impression à la demande.
D'accord.
C'est-à-dire on a un support Lulu Édition, enfin Lulu qui est un éditeur à la demande, enfin d'impression à la demande, et ça permet de sortir aussi de ces réseaux de distribution comme ça très classiques. Où des jeux de niche ne peuvent pas percer. Hein, voilà.
D'accord.
Mais alors qu'il y a plein de jeux qui sortent sur ces canaux-là, alors qui touchent un peu des initiés, mais à côté de ça, il y a quand même des blockbusters qu'on trouve en magasin, etc.
Ah, donc c'est intéressant de voir au final qu'il y a encore une bonne marge de progression pour le jeu de rôle. Donc, de toute manière, enfin, j'aimerais bien, Willy, que tu puisses revenir pour nous parler un peu de ça, en plus, peut-être la dimension psychologique et autres. Ce serait bien de se refaire un sujet sur le jeu de rôle. Je pense que c'est quelque chose où il y a, enfin, un jeu où il y a beaucoup de choses à dire, et on en parle peut-être pas assez souvent. Donc, bon, là, malheureusement, c'est vrai que l'émission touche à sa fin, mais très, très intéressant, et je serais ravi de pouvoir continuer à discuter avec vous deux de ce sujet, dont on ne parle pas assez, à mon avis, qui reste un peu trop obscur à mon goût. Avant de rendre l'antenne, juste je vais te demander où est-ce qu'on peut retrouver un peu ton actu à toi, Willy, où est-ce qu'on peut suivre donc ce que tu fais. Tu parlais d'un blog tout à l'heure.
J'ai un blog qui s'appelle Pentaverse, P-E-N-T-A-V-E-R-S, pentaverse.overblog.com.
Là-dessus, on peut trouver quoi? Alors, on trouve.
Voilà, c'est mon blog à moi, donc j'y parle de mon actualité un peu, et puis de mes jeux, voilà, mes collaborations diverses. Et puis Punch Unit, le dernier jeu, donc on peut le trouver sur lulu.com, il y a une boutique. Et puis on peut le trouver sur sa page Facebook.
Très bien. Et vous parliez aussi d'une association, tant qu'à faire, vu que vous faites partie d'une association. Non, on en parle, on en parle pas.
Ah ouais.
Alors c'est laquelle? On peut les trouver où? Comment?
Alors le Crazy Orc. Vous tapez Crazy Orc sur Google, c'est le premier qui ressort. C'est un forum. C'est l'association donc Crazy Orc qui est au 13 rue Antoine-Lumière,
Antoine-Lumière,
dans le 8.
D'accord.
On a un local de la mairie.
Et donc les gens, ils peuvent passer pour voir ce que
et
c'est.
Alors, ça se fait. Alors, l'avantage, c'est que le forum, justement, on a un planificateur qui permet de voir quand il y a des parties de prévues.
D'accord.
Ça permet de s'y taguer aussi, donc de s'y inscrire.
On y va, on se présente et on est plus
en. Et en général, c'est le samedi et le dimanche.
D'accord.
Après-midi.
Bon, je vous le dis, amis auditeurs, vous inquiétez pas, de toute manière, vous retrouverez toutes ces informations donc sur le Facebook de GameAge avec la publication du podcast. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas pu tout suivre ou qui veulent avoir plus de détails, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou via le hashtag R du jeu, RDUJEU, voilà, et on transmettra avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir été là, tous les deux, pour nous avoir parlé du jeu de rôle.
Merci.
C'est très intéressant. Et puis, désolé encore pour le retard, hein, mes auditeurs, et puis la prochaine fois, je ferai en sorte d'être à l'heure. Et puis, on vous laisse, on vous souhaite un excellent week-end, et puis amusez-vous bien. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Merci à toi, Nassau.
Merci, Arnaud.